7h14, M. McSween, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, quels sont les seuils psychologiques des indices boursiers?
Ben oui, tu sais que j'ai un passé de mathématicien à polytechnique, hein? Je faisais des courbes, puis des dérivés, puis des intégrales, tu sais, avant d'être comptable. Et quand je regarde des courbes, ben j'aime ça voir des tendances. Et quand je regarde les indices boursiers, depuis un an, deux ans, trois ans, il y a certaines tendances. Par exemple, le S&P 500 aux États-Unis, tu vois la courbe qui monte de 2016 à 2018 de façon très accélérée, mais entre 2018 puis aujourd'hui, ça va, ça vient, ça monte, ça descend. Et quand tu atteins 2900 points, c'est comme si les investisseurs se disaient « Oh, c'est un peu haut, on va redescendre. » Et ça fait plusieurs fois. Donc, si tu regardes ça, on a atteint le 21 janvier environ 2018, environ 2900 points. Ça a rebaissé, ça a remonté au mois de septembre 2018. Ça a rebaissé, ça a réatteint 2900 points l'été dernier. Donc, tu vois, c'est cyclique. Et on dirait que là, on atteint un certain plateau que lorsque les investisseurs voient 2900 points et plus, on laisse des fois dépasser à 3000, mais on revient.
Mais donc, j'ai l'impression que c'est... je connais pas trop ce monde-là, là, mais souvent que les décisions sont spontanées. Exemple, Trump annonce des tarifs, là, le marché réagit mal. Trump annonce que les relations sont meilleures avec la Chine, qui est pas loin d'une entente, oups, ça se replace. Et tu sais, c'est comme si ce genre de déclaration avait une influence plus importante que son poids réel.
Ben, en fait, Paul, c'est quasiment l'effet d'autoprophétie. C'est-à-dire... si, mettons, les gens voient une mauvaise nouvelle, se disent « Ah, il y a une mauvaise nouvelle, les gens vont vendre leurs actions et donc je vais vendre mes actions parce que je pense que les gens vont vendre leurs actions. » Alors finalement, tout le monde vend ses actions et donc il y a une baisse. Donc, les bonnes et les mauvaises nouvelles influencent plus, t'as raison, la bourse que l'impact réel parce qu'on anticipe aussi le mouvement boursier. Regarde, au Nasdaq, même problème, on était à 8000 points, on est allé à 8000 points à trois sommets dans les dernières années depuis 2018 et chaque fois qu'on atteint les 8000, ça redescend en bas. Donc, on voit qu'il y a une espèce de surchauffe au niveau de l'investisseur qui se dit « à ce niveau-là, ça m'inquiète un peu ».
On dirait comme si tout le monde attend une récession, là.
Ben, tout le monde attend une petite correction, disons.
En tout cas, au moins ça, là.
Au Canada, c'est la même chose. On est à 16 400 points, là. Et là, on l'a atteint en décembre 2017, 16 200. Après ça, une autre fois après, puis une autre fois après. Donc, entre 16 200 et 16 400, c'est comme si les marchés se disaient, ça, pour l'instant, c'est élevé. Et donc, ça oscille alentour de ces cibles-là. C'est une simple observation mathématique, mais c'est se dire, on dirait que les gens sont en attente d'une vraie mauvaise nouvelle.
OK. Essayons quand même de planifier la retraite.
Ben oui. Et on se dit, souvent, il y a le seuil de 70 %. On dit, à la retraite, remplace ton revenu par 70 % de ton brut. C'est une bonne règle du pouce. Et là, il y a Éric Brassard qui m'envoie un lien d'un article qui avait été écrit il y a plusieurs années, en fait, d'une analyse de son bureau qui était « La stupide règle de 70 %, rien de moins ». Vous pouvez le trouver sur Internet. Et qui remet en cause totalement ça. Il dit, pourquoi le régime des rentes du Québec, la retraite Québec se base sur ce pourcentage-là, alors qu'il est un peu inutile de s'y fier. Par exemple, il y a plusieurs points qui portent à penser ça. Le premier, c'est, quand on a une réalité familiale différente d'un autre, on peut pas tous se dire, hey, on va remplacer notre revenu de retraite par 70 % de notre revenu. Je te donne un exemple. T'es un célibataire, tu gagnes 80 000 par année. Si tu suis la logique du 70 %, tu dis, bon, j'ai besoin de 56 000 à la retraite pour arriver. Mais si t'es une personne qui est monoparentale, qui a trois enfants, dont deux qui sont encore à la maison quand t'es rendu à la retraite, puis il y en a un qui est handicapé, ben, veux pas, t'as pas les mêmes besoins. Donc, cette règle du pouce-là sert à rien de l'extrapoler à tout le monde, alors que chacun a sa réalité familiale unique. Deuxième point, la fiscalité. Tu sais, on dit aux gens, hey, planifiez votre retraite en fonction d'un revenu brut. Alors que vos revenus de retraite viendront de différentes sources qui ne sont pas des revenus bruts. Je te donne un exemple. Si tu décides de mettre 10 000 dans ton CELI ou 10 000 dans ton REER, tu n'auras pas le même revenu net. Donc, quand on parle de revenu brut, ça ne tient pas compte de la fiscalité. Ça ne tient pas compte non plus que peut-être que dans 20 ans, nos règles fiscales ne seront plus les mêmes. Alors, c'est peut-être erroné de penser comme ça. Faut penser en liquidité nette. Donc, autre point, c'est à la retraite, quand tu as des placements hors REER, puis tu sais, hors CELI, des fois c'est du dividende, des fois c'est du gain en capital. des fois, c'est libre
d'impôt. Mais mis à part les gens là, qui ont un revenu garanti, là, ouais. Parce qu'ils ont des régimes qui prévoient la prestation, là, dans le fond, là, des gens comme la majorité des Québécois, ils vont vivre avec le revenu qu'ils vont être capables d'aller d'avoir obtenu ou d'avoir épargné, puis c'est tout. Là.
Oui, il y a pas de miracle dans ça. C'est le montant que tu as besoin. Ben. C'est plus de dire 70 % c'est une règle qui vaut n'importe quoi. Parce que, je te donne un autre exemple. Le troisième exemple, c'est qu'il faut que tu distingues les sorties de ton patrimoine puis tes revenus. Par exemple, si j'arrive à 66 ans puis que je fais la vente de mon chalet, si j'avais un chalet, puis que j'ai un montant net qui arrive de ça, mais c'est pas parce que j'ai un revenu dans l'année que je vais le dépenser tout de suite. Même chose avec le régime des rentes du Québec. C'est pas parce que je commence à recevoir du gouvernement mon usufruit de régime des rentes du Québec que je vais l'utiliser. Ça dépend de mon calcul dont j'ai vraiment besoin. Et d'où ça vient, le 70 %, tu l'as dit, ça vient des gens qui ont 35 ans de service à 2 %. Mais ce ratio-là tient compte d'une chose, il tient compte qu'à la retraite, tu payes plus de charges sociales ou moins de charges sociales, que tu as besoin de moins d'argent pour épargner parce que tu as déjà épargné. Mais ça tient compte d'un effet de masse, c'est-à-dire des calculs basés sur l'ensemble de la société statistiquement. Mais toi, tu es un individu particulier, tu as ta vie particulière. L'autre point, mettons que tu es une personne qui a fait 3 ACV à 58 ans. Ta vision de la retraite n'est pas la même. Le taux d'inflation va influencer ta retraite. Le rendement de tes placements aussi. Donc, je vous invite à aller voir ce document-là. Hein. La stupide règle de 70 %, puis l'analyser en fonction de votre réalité pour voir que c'est peut-être une règle du pouce pour du monde, mais la valeur réelle de ça est pratiquement nulle dans la planification de retraite.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Salut.
Salut. 7h21.